Vous écoutez Radio Campus 106.6 FM, www.campusil.com et en DAB+, DAB+, sur la métropole lilloise. Dernière séquence de cette émission qui nous entraînera vers les 18h, elle est consacrée au festival Cité Philo. Et notre invité est Jacques Lemierre. Bonjour Jacques Lemierre.
Bonjour.
Alors, heureux de t'accueillir comme régulièrement à chaque édition de ce festival. On peut appeler ça un festival. Hein.
Festival de la pensée.
De la pensée, tout à fait. Mmh. Et donc un moment de réflexion et d'échange, on peut dire ça comme ça.
Oui, puisque les sessions normales de Cité Philo sont sur le format de 2 heures. Et l'intervention des gens qui sont à la table n'excède jamais 1h30, de façon à ce qu'il y ait au moins une demi-heure de conversation avec l'auditoire. Et quelquefois, on fait une heure, quand on pense que le temps de discussion doit être plus large.
Donc ces moments de discussion sont préparés depuis un bon moment. Il y a l'édition donc du programme qui existe, on peut retrouver sur citéphilo.org. Et on a une certaine abondance, on peut dire. C'est assez énorme de boulot.
C'est une courageuse, valeureuse équipe de bénévoles qui se met à réfléchir le contenu de l'édition suivante une fois qu'a eu lieu en décembre, une quinzaine de jours après la fin de l'édition de l'année, le débriefing, si je puis dire. Donc on va commencer là en janvier 2020 à réfléchir à... Voilà, à ce qui structure à chaque fois les éditions de Cité Philo, c'est-à-dire un thème, un invité d'honneur, une sélection prise par les membres de l'association dans ce qu'on appellera l'actualité éditoriale, et puis une journée de cinéma, et puis... voilà, c'est quelquefois quelque chose en plus, par exemple cette année, comme il y a Eldorado, il y a... un petit groupe de conférences qui sont, disons dans le sillage de la thématique d'Eldorado. Nous, on a choisi les couleurs de l'or.
Voilà. Voilà, alors, c'est un thème en 3 mots. J'aime bien l'idée des 3 mots. C'est pas dire plus faire, c'est dire et faire, un peu comme yin et yang.
Oui, voilà, c'est un mot de liaison.
Ouais. Donc, en même temps, mot de liaison. Chaque mot intègre une partie de l'autre aussi.
Là, en tout cas, la liaison entre dire et faire pose beaucoup de questions. Mais je crois que vous recevrez un des responsables de l'organisation de cette thématique la semaine prochaine. Donc peut-être qu'on ne va pas complètement déflorer le propos. Mais bon, l'idée peut se dire de façon assez triviale. Grandiseux, petit faiseux.
Voilà. Hein, il y en a qui disaient aussi le dire c'est bien, le faire c'est mieux.
Voilà, enfin, alors l'éditorial de Cité Philo sur le sujet commence en se disant que le nord de la France et la Normandie se disputent la paternité de ce dicton populaire. Voilà, donc on peut examiner toutes les relations qui peuvent exister entre ces deux verbes.
Voilà, et puis dans cette thématique, il y a le cinéma.
Oui, alors c'est un petit peu de ça peut-être qu'on parle plus volontiers dans cette première invitation que vous nous faites. On vous remercie de nous inviter 2 fois.
C'est un grand plaisir.
Voilà. Et donc, alors le cinéma, d'autant plus que, le cinéma, il a 2 places essentielles là dans cette édition, et puis il y a d'autres formes de présence dont je vais parler ensuite. Comme toujours, il y a ce qu'on appelle le dimanche de cinéma de Cité Philo, donc qui est consacré à une œuvre importante, mais pas forcément sur les devants de la scène et sous les feux de la rampe. Donc cette année, on a choisi le travail d'un cinéaste documentariste qui puisse faire écho aux événements qui se sont passés en Algérie. Ce soulèvement du peuple algérien qui a bloqué le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Donc le cinéaste s'appelle Malek Ben Smaïl. Et donc on a décidé de sélectionner 4 de ses films. Alors, je dis le dimanche de cinéma, mais l'ouverture de ce cycle va se faire dès demain, À 20h, et pas dans le Palais des Beaux-Arts, qui est un peu notre navire amiral, mais dans un lieu avec lequel on a une très très belle collaboration depuis plusieurs années, qui est la médiathèque de l'Homme, la médiathèque l'Odyssée de l'Homme. Mm-hmm. Donc on ouvrira ce cycle. Alors ce cinéaste, c'est quelqu'un qui... voilà, il est algérien, il est venu habiter à Paris dans les conséquences de ce qu'on a appelé la décennie noire, parce que c'était extrêmement risqué de rester là-bas, compte tenu de ce qu'il faisait. Mais il est extrêmement lié à l'Algérie. Il travaille régulièrement, il y retourne, il filme pour la télévision algérienne, outre les films qu'il fait et qui peuvent être produits par la France. Voilà, et donc Malek Bensmaïl dit quelque chose qui nous a beaucoup intéressés. Il dit que le monde arabe en général... Et l'Algérie en particulier, puisque c'est son pays. Il est né à Constantine, fils d'un psychiatre de l'hôpital de Constantine. Se sert davantage de la fiction pour dire son rapport au monde. Comme s'il y avait une espèce de crainte de la puissance du documentaire. Et c'est ainsi qu'il a décidé d'être un cinéaste documentariste. Voilà. Donc ça situe les choses. Donc quatre de ces films. Donc un film, celui qui va être montré dès demain à 20h à la médiathèque de l'Homme, qui est directement en écho avec ce qui se passe actuellement, puisque on est dans la campagne électorale de 2014. Bouteflika a eu son AVC en 2013, donc il est patent que cet homme n'a pas les moyens physiques et mentaux, si je puis dire, de gouverner, mais il va être candidat à la présidentielle. Et Malek Bensmaïl, qui a déjà filmé des campagnes électorales en Algérie précédemment, décide cette fois de ne pas suivre un candidat, comme il avait fait dans un film antérieur, que nous n'avons pas retenu, mais de filmer la situation de la campagne électorale à travers l'activité de la rédaction d'un journal indépendant d'Alger qui est connu, qui est El Watan. Mm-hmm. Voilà. Donc là, je pense qu'on est au plus près, d'une certaine façon, de l'écho que le spectateur pourra lui-même construire par rapport à ce qu'il regarde avec attention depuis un an dans la situation algérienne.
Est-ce que cette situation algérienne en France est perçue de façon relativement objective on ne sait pas.
Ça, c'est une appréciation. Moi, j'ai pas trop envie d'aller dans ces directions. Je préfère peut-être laisser les débats advenir quand les films seront là et quand Malek Bensmaïl peut en parler. Voilà. Ouais. Donc, d'autant plus que on a construit le dimanche de cinéma avec des choses qui sont dans le contemporain de l'Algérie et en même temps qui font appel à une certaine profondeur historique de ce pays, puisque le matin on montrera un film qui s'appelle La bataille d'Alger, un film dans l'histoire. Tout le monde sait qu'un réalisateur italien a fait en 1965 un film qui s'appelle La bataille d'Alger. Mais ce film a eu toute une histoire algérienne, française. Française, c'est la censure pendant longtemps, et mondiale. Et donc, Malek Bensmaïl a fait un travail de réexamen de la mythologie qui s'est construite autour de ce film. Il faut savoir qu'un enfant d'Algérie, il voit ce film très régulièrement à la télévision comme une espèce de film du roman national, film numéro un du roman national. Ensuite, l'après-midi, on montrera un film qui s'appelle Aliénation. Il est au cœur de l'hôpital psychiatrique dans lequel son père a exercé. Il filme les rapports entre soignants et soignés, mais il a l'idée que les troubles qui affectent les soignés ne sont pas que des troubles personnels, ce sont aussi des troubles du pays. Voilà, du collectif national. Et puis un troisième film qui s'appelle La Chine est encore loin. Il est toujours aussi dans le travail de déconstruction des mythes nationaux. Il se rend dans le village dans les Aurès, qui a été le village où les premiers événements violents de la guerre de libération menée par le FLN ont eu lieu, Toussaint 54, le village des Aurès, où vont mourir une opération armée des premiers maquisards du FLN, un couple d'instituteurs et un caïd du pays. Alors donc lui, il va aujourd'hui. Il est entre l'école où les enfants reçoivent les leçons de leur instituteur, et puis les commémorations que l'État fait en mettant en avant les anciens combattants. Donc il est dans ce présent de l'Algérie, dans les Aurès, avec le recul de cette histoire et de cette mythification du lieu comme le berceau de la révolution algérienne. Et on aura une conversation avec Malek Ben Smaïl. Alors, lui sera là le dimanche, c'est le dimanche 24 novembre au Palais des Beaux-Arts. Mais demain, 7 novembre, viendra son producteur, qui est Gérald Collat, qui est un producteur formidable parce qu'il est dans une petite structure de production de l'INA qui est la suite de ce qui s'appelait autrefois le service de recherche de l'ORTF. L'ORTF avait vraiment un lieu de production très original, très inventif, très volontariste aussi. Alors, il reste ça dans l'INA. Et Gérald Collat en est un très beau représentant. Donc, il est non pas le producteur de tous les films de Malek Ben Smaïl, mais c'est un des Français qui connaît le mieux son travail et qui a produit ou coproduit beaucoup de ses films.
Donc, demain, c'est à 20h, c'est ça?
Oui, 20h.
Et c'est donc à la médiathèque Odyssée.
Médiathèque de l'Homme, oui.
L'Odyssée, 794 avenue de Dunkerque, ouais. À l'Homme.
Hein. Métro Maison des Enfants. On y va très facilement en métro.
Ah oui. Ouais. Bon. Voilà. Donc, 20h, le débat après le film.
Oui, alors il y aura une présentation par Gérald Collat de l'œuvre et du travail de Malek Ben Smaïl dans sa généralité, la projection du film et ensuite une discussion.
Voilà, donc producteur à l'INA. J'ai visité l'INA il y a quelques années. C'est incroyable comme lieu, hein, espace de stockage, de production.
Ouais, enfin, c'est une institution.
C'est là qu'on se rend compte que la France, c'est quand même un grand pays, qu'on le veuille ou non.
Bah, elle est un grand pays. Elle est un grand pays. Elle est un grand pays qui a devant lui des superpuissances. Mais donc il est un grand pays. C'est à la fois un grand pays et une puissance secondaire.
Mais quand on voit ça, on se dit qu'on a des moyens pour entretenir des lieux extraordinaires et qui sont protégés en plus. Hein. On peut dire que c'est un lieu.
C'est important.
Oui, très important. C'est comme une grande bibliothèque, hein, l'INA, d'une certaine manière. Voilà. Donc, Jacques Lemire, on est toujours dans la présentation donc, de Cité Philo 2019. On peut dire que c'est un moment où de nouveaux publics vont s'intéresser à la philosophie.
Bon, ça, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu de Cité Philo. Cité Philo porte bien son nom. C'est la philosophie. Donc, je pense que c'est la philosophie et les sciences humaines, c'est la pensée dans la cité, sans aucun réquisite de formation antérieure, ni de paiement d'un droit d'entrée. C'est-à-dire, on entre, on sort, on y prend son miel. Et avec un pari qui est que les intervenants savent qu'ils n'ont pas devant eux un public de spécialistes, on leur rappelle, mais ils sont priés de garder l'exigence de la pensée, tout en sachant qu'ils s'adressent à un public hétérogène, composite, à la fois en termes de statut, de génération, de curriculum universitaire. Donc voilà, et ça, c'est une situation qui les intéresse. Mm-hmm. Quelquefois, on en a qui continuent à faire le colloque. Bon, mais on essaie d'éviter ces situations, d'abord de les prévenir et puis de les remettre dans le rail si jamais ils le font. Mais en général, les intervenants qui commencent à savoir, c'est quand même notre 23e édition, je crois. Je
23, oui.
Donc ils savent que c'est hétérogène. Mais j'ai encore des choses à vous dire sur le cinéma.
Bah, bien sûr.
Parce que j'avais dit tout à l'heure, il y a une présence qui est structurée, c'est le dimanche de cinéma, avec son jeudi soir, là, si je puis dire. Mais il y a aussi là, on a un invité d'honneur qui est une personnalité scientifique importante, qui est Philippe Descola, l'ethnologue qui a repris une chaire d'anthropologie de la nature, mais qui était la chaire d'anthropologie sociale qui a été successivement occupée par Claude Lévi-Strauss et Françoise Héritier au Collège de France, et qui est un éminent spécialiste de certaines communautés d'Indiens d'Amazonie, et qui est quelqu'un qui, surtout, s'est appliqué sous l'effet de l'enseignement, de leur rapport au monde par les Indiens d'Amazonie, a complètement reposé la question des rapports entre la nature et la culture. Mmh. Alors, il y a ce travail de fond qui, de toute façon, est très important structurellement, si je puis dire, mais conjoncturellement, c'est avec les questions qui sont à la fois liées au dérèglement climatique et lié à l'accession au pouvoir de Bolsonaro au Brésil, qui est dans une violence pas seulement symbolique mais matérielle à la fois contre le peuple, contre les questions de l'écologie et contre les Indiens. Bien évidemment, ceci prend un relief tout particulier. Donc là, par rapport à votre question, s'intéresser à, on va être capable sans doute d'intéresser des gens au cours de ce week-end de présence de notre invité d'honneur. Donc,
15, 16 et 17 novembre.
Mmh. Et Philippe Descola va être là présent pour 5 séances. Mais la cinquième, nous avons souhaité le mettre devant un film de valeur qui porte sur des objets proches de ces objets de pensée. En l'occurrence, ce ne sont pas des Indiens d'Amazonie, mais ce sont des Indiens du nord du Brésil, dans une partie un petit peu moins forestière, mais un peu forestière tout de même, qui ont participé au film. Le film ayant été réalisé par un couple, qui est donc co-réalisateur, mais couple dans la vie, composé d'une Brésilienne, qui s'appelle René Nader Messora, qui a déjà, elle, une petite antériorité de travail autour du cinéma et de la maîtrise aussi de l'outil cinématographique avec des Indiens, et qui a embarqué son compagnon, qui est un jeune cinéaste portugais, qui travaille sur le cinéma portugais, le regarde comme parmi les jeunes cinéastes portugais le plus doué de sa génération. Il s'appelle João Salavisa. Et donc, on avait pensé les inviter tous les deux s'ils avaient été à Lisbonne. João Salavisa est au mois de novembre à São Paulo, parce que le même couple va faire un film qui est en préparation, qui va revenir sur la question des Indiens d'Amazonie, mais au moment de la dictature brésilienne, cette dictature que Bolsonaro veut réhabiliter. Et donc, João Salavisa viendra seul de São Paulo, puisqu'il va s'interrompre quelques jours de cette préparation. Le film, donc, nous le donnons à lire à Philippe Descola, et de sorte à constituer un dialogue entre lui et João Salavisa. Et João Salavisa, quand on l'a contacté, nous a immédiatement répondu qu'il connaissait très très bien l'œuvre de Philippe Descola, qui est très 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 reconnu au Portugal et au Brésil. Et donc, voilà, c'est un film qui est entre fiction et documentaire. Il y a une ligne scénaristique, mais bien évidemment, on est complètement dans une dimension documentaire, avec comme ligne de récit la question de savoir si un jeune homme, après la mort de son père, appelé par des voix de son père, va devenir chaman, ou s'il va essayer de contrarier ce destin pour se tourner vers la ville proche.
Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas complètement l'objet de l'émission, mais je trouve qu'il y a beaucoup de retours actuellement, au moins chez les artistes que j'ai rencontrés, au chamanisme.
Oui.
Je sais pas si on retrouve aussi dans les films.
Écoutez, allons voir Le Chant de la Forêt.
D'accord.
Mais c'est un film qui n'est pas une exclusivité, puisqu'il a été distribué en salle en France il y a quelques mois, mais c'est un très beau film. Et alors, je peux encore parler de films ?
Bien sûr.
Alors, il y a une chose qui va être très intéressante, je pense, pour beaucoup de gens ici. Nous allons consacrer une après-midi entière, c'est le 13 novembre, à une figure d'éducateur, d'intellectuel, très importante, qui est Fernand de Ligny. Fernand de Ligny, qui a commencé son travail en direction d'enfants enfermés à l'hôpital psychiatrique d'Armentière comme instituteur spécialisé, qui c'était en 1940, et qui a commencé à les faire sortir de l'établissement. Il a été donc pionnier de cette question de sortir les gens considérés irrécupérables de l'institution pour montrer toute leur capacité de résilience. Et puis, il a fait tout un parcours qu'il a emmené ensuite dans un village des Cévennes pour s'occuper d'enfants autistes sans langage oral, une toute petite équipe d'éducateurs, très peu d'enfants, et là c'est une œuvre considérable. Et alors là, il y a deux choses qui ont requis notre attention, outre le fait qu'on aime bien cette idée que les gens de Lille se rappellent que de Ligny a commencé ici, dans la région, à Armentière.
Je pense qu'à Armentière, il y a toujours aussi cette tradition de sortir les
personnes. Oui, mais ça, la question est maintenant établie. Ouais. Le problème, c'est qu'il a fallu des pionniers pour
bien
ça.
Bien sûr.
C'est surtout ça. Et donc là, il y a deux choses qui ont requis notre attention, et le cinéma va venir en support d'autres choses. C'est que d'une part, a été publiée la correspondance des Cévennes de Fernand de Ligny, donc sa correspondance de 1968 à 1996. Et donc, on va prendre deux heures avec des philosophes et à Cité Philo, un de nos meilleurs spécialistes à Cité Philo de la psychothérapie institutionnelle, Jean-François Rey, pour examiner la portée de cette correspondance. Il était un intellectuel, il était à la fois anarchiste et communiste, il correspond avec François Truffaut, il correspond avec Louis Althusser, enfin mais il se trouve que la même année, Richard Coppens, qui est un documentariste et producteur de films documentaires important de la maison Les Films d'ici, a décidé, lui qui a travaillé avec de Ligny, de faire un film sur la vie et l'œuvre de Ligny. Ça s'appelle Monsieur de Ligny, le vagabond efficace. Et donc, on va consacrer, après les deux heures de discussion autour de la correspondance, deux heures pour présenter ce film. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui est... Le film de Richard Coppens se tient vraiment au plus près des lieux et au plus près de l'œuvre. Et donc, on a quelque chose de fort. Voilà. Et voilà, donc ça, ce sont... alors, il y a deux autres occurrences de cinéma, et je vais les nommer. Après, vous me questionnerez sur ce qui vous intéresse le plus. On aura le 22 novembre une après-midi consacrée à la question de l'Arménie, avec retour sur la question du génocide arménien de 1915. Donc là, avec un spécialiste qu'on a déjà fait venir à Cité Philo plusieurs fois sur la question de l'Arménie, qui est Michel Marian, mais on le fait rencontrer Jacques Kébadian, qui est un cinéaste qui est déjà venu à Cité Philo l'année dernière avec un film « Les Révoltés » sur mai 68, sur des images de mai 68. Et donc Jacques Kébadian, dont le nom résonne d'origines arméniennes, va venir présenter un très court-métrage, Arménie 1900, qui revient sur la situation juste avant le génocide de 1915, et un film s'appelle Sans retour possible, qui est un long métrage, qui est une enquête à Marseille et en France, là où sont les Arméniens, sur leur expérience de vie, c'est-à-dire sans retour possible, une fois qu'on a quitté l'Arménie après le génocide. Donc ça, c'est le 22 novembre. Et puis la toute dernière occurrence, présence de film, elle est la suivante. Elle est moins imposante en tant que œuvre cinématographique, mais elle a sa valeur. Cité Philo a souhaité faire une session sur la question du soulèvement des Gilets jaunes. Donc, nous invitons Gérard Noiriel, l'historien, qui a écrit, en fait c'est un entretien avec un journaliste du Monde, un texte qui s'appelle « Les Gilets jaunes à la lumière de l'histoire ». Et comme Gérard Noiriel, quelques mois avant, avait fait un livre un petit peu moins visible, qui était un retour sur l'histoire des luttes populaires de la guerre de Cent Ans jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on va lui proposer de juger de ce soulèvement des Gilets jaunes dans sa nouveauté, dans son caractère inédit par rapport à sa connaissance de cette histoire. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est moi qui vais m'occuper de cette séance, c'est que souvent on dit les Gilets jaunes, c'est nouveau, c'est inédit, mais on le dit, mais on ne va pas toujours très au fond pour caractériser cette nouveauté. Simplement, comme Noiriel est historien et qu'il a écrit un livre, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts ne pas mettre les Gilets jaunes à l'image et au son. Donc j'ai cherché parmi les productions qui ont commencé à être disponibles sur le soulèvement des Gilets jaunes, un film de rond-point et un film d'assemblée. Donc, Jean-Pierre Thorne, qui est un documentariste reconnu, qui vient de signer un film très personnel sur l'histoire de sa vie et de son activité de cinéaste, qui s'appelle « L'âcre parfum des immortels », a voulu que lui, qui a filmé les luttes après 68, et d'autres luttes encore dans les années 80 et 90, qu'il y ait une séquence de Gilets jaunes. Et il a donc mobilisé son équipe pour aller à la mi-décembre sur un rond-point à Montabon, dans la Sarthe. Et donc, il en sort un film fait par cette équipe de 30 minutes. Et ensuite, un film de rond-point, Dominique Cabrera, qui va, quand elle entend parler de l'appel de Commercy, à la fin du mois de janvier de cette année 2019, filmer ce tâtonnement d'assemblée de Commercy. Voilà.
Un super programme. On peut rappeler la date, le jour de ce grand moment ?
Les Gilets jaunes, 9 décembre, parce que Gérard Noiriel n'était pas disponible en novembre. Donc on a 9 décembre au Palais des Beaux-Arts, de 18h à 21h.
Bien, merci Jacques Lemierre pour cette contribution, au moins la partie cinéma, mais au-delà de ce festival Cité Philo. Donc allez sur le site citéphilo.org et vous aurez l'ensemble du programme. Très bonne soirée.
Merci beaucoup.
Merci Jacques Lemierre. Vous écoutiez Quoi de neuf sur Radio Campus, un magazine que vous retrouvez tous les mercredis entre 16h et 18h. Donc la seconde partie de la présentation de Cité Philo sera la semaine prochaine à même heure, 17h30, 18h.